Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les autres. Diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre programme en français sur SBS Audio. Au sommaire de cette édition, nous explorerons de nouvelles pistes pour tisser des liens avec les Premières Nations d'Australie. Nous verrons également comment un élan de solidarité né après l'attentat terroriste de Bondi a permis de renforcer le soutien financier d'une ligne d'assistance aux réfugiés. Enfin, nous découvrirons la friterie du Paris-Dakar. Mais avant cela, l'essentiel de l'actualité de ce mardi 6 janvier, vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé. Dans cette édition, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse ont plaidé non coupables devant un tribunal américain. L'auteur présumé de la fusillade de Bondi a été transféré à la prison de haute sécurité de Goulburn. Et en France, le gouvernement tente d'apaiser la grogne des agriculteurs à la veille de la signature de l'accord du Mercosur. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a plaidé non coupable des accusations de narcoterrorisme portées contre lui par les États-Unis après son arrestation et son transfert à New York. Âgé de 63 ans, il est inculpé de 4 chefs d'accusation, dont complot en vue d'importer de la cocaïne et possession des mitrailleuses et autres armes prohibées. Il réfute ces accusations et affirme être toujours le président du Venezuela. Son épouse, Cilia Flores, a également plaidé non coupable et leur prochaine comparution est prévue le 17 mars. L'accusation soutient que M. Maduro dirigeait un réseau de trafic de cocaïne lié au cartel mexicain, au FARC colombien et au cartel vénézuélien Tren de Aragua. Compte rendu, Vincent Sourieau pour RFI.
Je suis innocent, je ne suis pas coupable, je suis un honnête homme et je suis toujours le président de mon pays. Voilà ce que Nicolas Maduro a déclaré au juge chargé de son dossier. Nicolas Maduro, qui au moment de décliner son identité, s'était déjà présenté comme le président de la République du Venezuela. J'ai été, a-t-il dit, kidnappé à mon domicile à Caracas. Il a plaidé ainsi que son épouse non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui, narcoterrorisme, trafic de cocaïne et détention d'armes de guerre. Audience de procédure qui n'aura duré qu'une quarantaine de minutes et qui avait pour objet principal d'informer les accusés de leurs droits, notamment le droit à une visite consulaire en prison. Nicolas Maduro a confirmé qu'il souhaitait s'entretenir avec des représentants vénézuéliens, même si, à ce jour, il n'y a plus d'ambassade du Venezuela aux États-Unis. Lorsqu'il s'est levé pour partir du tribunal, Nicolas Maduro a été interpellé par un opposant politique, lui disant qu'il allait payer pour ses crimes. Nicolas Maduro lui a répondu qu'il ferait tout pour regagner sa liberté.
Et c'est un juge fédéral de 92 ans qui préside le procès très médiatisé à New York de l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse. Ce juge chevronné, nommé par Clinton, dirige les débats après avoir récemment bloqué les tentatives d'expulsion des migrants vénézuéliens lancées sous l'administration Trump. Fort de plusieurs décennies d'expérience, le juge Hellerstein avait déjà rejeté la demande de Donald Trump de transférer une affaire de fraude initialement jugée au niveau de l'État devant un tribunal fédéral. Monsieur Hellerstein souligne souvent comment son parcours personnel et son identité juive nourrissent son engagement pour la justice et la défense des personnes marginalisées. Et réaction en France, la classe politique française a largement condamné la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces armées américaines, mais le président Emmanuel Macron n'a dénoncé ni la méthode ni l'intervention elle-même, affirmant que le peuple vénézuélien devrait se réjouir. Les partis de gauche français ont qualifié de leur côté ces propos de honteux. Emmanuel Macron a quant à lui clarifié sa position hier lors du premier conseil des ministres de l'année 2026. Valérie Grasse, RFI.
À entendre l'entourage d'Emmanuel Macron, ceux qui ont critiqué le fait que le chef de l'État ne condamne pas clairement dans sa première réaction l'intervention des États-Unis au Venezuela comme une violation du droit international, se sont trompés d'analyse. Le message d'Emmanuel Macron diffusé samedi en fin de journée était complémentaire avec celui diffusé auparavant par le ministre des Affaires étrangères avance l'Élysée. L'un, Jean-Noël Barrot, évoquait la méthode, l'autre, Emmanuel Macron, l'action, explique un conseiller. Le ministre des Affaires étrangères avait dénoncé l'usage de la force, contraire au droit international. Le président de la République a donné la solution qu'il préconisait pour la suite, à savoir une transition pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien, débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro. Il n'empêche, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a tout de même pris soin de rectifier le tir. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, a rapporté les propos présidentiels.
Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée.
Le chef de l'État a préféré calmer la polémique.
Et Navid Akram, l'auteur présumé de la fusillade de Bondi, a été transféré dans la prison de la plus sécurisée de l'Australie, réservée aux détenus représentant le risque le plus élevé. L'homme, âgé de 24 ans, a été transféré de la prison de Long Bay à Sydney au centre correctionnel de Goulburn, un établissement de très haute sécurité situé à environ 200 km au sud de Sydney. L'administration pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud précise que cette prison est conçue pour accueillir les détenus présentant les risques les plus importants pour la sécurité. Navid Akram est inculpé de 59 chefs d'accusation, dont 15 pour meurtre suite à l'attentat terroriste perpétré sur la plage de Bondi le 14 décembre dernier. Sa prochaine comparution est prévue le 8 avril prochain. L'opposition de Nouvelle-Galles du Sud a dévoilé la nouvelle composition de son cabinet fantôme en vue des prochaines élections régionales. La chef de l'opposition, Kelly Sloan, affirme que cette nouvelle formation allie d'anciens ministres expérimentés à des jeunes députés et se dit prête à gouverner après ce qu'elle qualifie de paralysie du gouvernement travailliste de Chris Minns. Le chef des nationaux, Gomesh Singh, se voit confier le portefeuille des petites entreprises dans le cabinet fantôme, tandis que Brendan Moylan sera ministre fantôme de l'agriculture et la criminalité régionale, tandis que Tania Thompson, ministre fantôme des services d'urgence et de la gestion des catastrophes. Monica Tudor Hope et Jackie Munro rejoignent également le cabinet fantôme de Nouvelle-Galles du Sud. Madame Sloan indique que la coalition élaborera des nouvelles politiques dans les mois à venir, offrant ainsi aux électeurs une alternative claire lors des prochaines élections prévues dans 14 mois.
We have an exciting team that we brought together. This is a team that is ready to govern. This is a team that has experienced former ministers, blending that with fresh new talent. People that know how to run government and people that know how New South Wales is changing.
Entre-temps, la députée fédérale Zo McKenzie confirme que le Parti libéral est actuellement à la recherche d'un candidat de qualité pour briguer le siège de Nepean en Nouvelle-Galles du Sud. Cette annonce fait suite à la déclaration surprise aujourd'hui du chef adjoint de l'opposition du Victoria, Sam Groth, qui a annoncé son retrait de la vie politique de l'État lors des prochaines élections prévues au mois de novembre. Cette décision intervient après que l'ancien champion de tennis a conclu un accord à l'amiable avec le Herald Sun dans le cadre d'une action en diffamation concernant des articles sur sa vie privée. M. Groth évoque également d'importantes pressions internes et des luttes intestines au sein du parti comme principale raison de son départ de la vie politique. Mme McKenzie a déclaré à l'émission Today de la chaîne 9 que le parti reste déterminé à conserver la circonscription de la péninsule de Mornington sous la direction de Jess Wilson.
Obviously, we've got to get the right candidate now in Nepean for the Liberal Party. It's a seat that we hold and we must continue to hold. And there are some great potential candidates down on the Mornington Peninsula, people who believe in our small business ethic and the fact that it's a really resilient community that just wants to get on with life without red tape and regulation getting in everybody's way. So we're busy thinking about who might be the best people to represent Nepean in the state parliament. And Jess will lead a unified and strong team to the November election this year.
Et retour en France où le gouvernement tente d'apaiser la grogne des agriculteurs à la veille de la signature des accords du Mercosur. Les syndicats des agriculteurs ont relancé la contestation mise entre parenthèses à Noël. Entre-temps, le gouvernement cherche à apaiser la colère pour s'épargner un troisième hiver de blocage. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a entamé hier des rencontres qu'il poursuivra d'ailleurs tout au long de cette semaine avec des représentants syndicaux des agriculteurs. Cependant, ses responsables restent sceptiques quant aux intentions du gouvernement. Écoutons Florian Diran, président de la coalition de la coordination rurale des Hauts-de-Saône, au micro de RFI.
Je pense que c'est juste un effet d'annonce pour calmer les troupes. Aujourd'hui, on sait très bien que le traité du Mercosur va être signé. Il n'a jamais été aussi proche d'être signé. Donc aujourd'hui, c'est bien facile de faire un courrier et puis de dire que voilà que le gouvernement est contre le Mercosur. Aujourd'hui, c'est un petit peu facile.
L'armée israélienne a mené des frappes aériennes dans le sud du Liban, touchant la ville d'Anan la nuit dernière. Une vidéo authentifiée par Reuters montre une épaisse fumée s'élevant dans le ciel nocturne après la frappe. Israël affirme avoir ciblé des positions du Hezbollah et du Hamas après avoir émis des ordres d'évacuation pour plusieurs villages de l'est du Liban, de l'est et du sud du Liban. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que les frappes visaient ce qu'elle a décrit comme des infrastructures militantes dans la vallée de la Beka et dans le sud du pays. Ces attaques interviennent malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et conclu en 2024 qui a mis fin à plus d'un an de combats entre Israël et le Hezbollah. Depuis, les deux camps s'accusent mutuellement des violations de la trêve. Et en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait subi de lourdes pertes sur le champ de bataille en décembre, faisant état de 35 000 soldats tués. Dans son allocution quotidienne, M. Zelensky a affirmé que ces chiffres avaient été vérifiés par des preuves vidéo, marquant une forte augmentation par rapport au mois précédent. Et retour en Australie avec un rapport du Climate Council qui alerte sur les risques d'incendies catastrophiques similaires à ceux de Los Angeles en 2025 qui menacent désormais la périphérie de plusieurs villes australiennes. Cette analyse intervient alors que des chercheurs étudient des similitudes entre les zones périurbaines et les incendies de Los Angeles, notamment le fait que près de 6,9 millions d'habitants de Sydney, Melbourne, Canberra, Adélaïde, Perth et Hobart vivent dans des banlieues bordées de broussailles ou de prairies inflammables. Le rapport recommande aux responsables politiques de concentrer leurs efforts sur ces habitants de grandes villes particulièrement vulnérables en raison de la proximité de la végétation inflammable avec les zones d'habitation denses. Le rapport souligne que jusqu'à 90% des habitations dans ces zones datent d'avant les normes modernes de lutte contre les feux de brousse, ce qui accroît considérablement le risque d'inflammation par rapport par projection d'escarbilles et de propagation du feu d'une maison à l'autre. À présent, un aperçu de la météo à travers le pays. Perth temps ensoleillé avec un maximum de 30 degrés. Adélaïde ensoleillé également et 36 degrés. Melbourne ensoleillé un maximum de 29 degrés. Hobart partiellement nuageux, 26 degrés. Canberra éclairci avec un maximum de 33 degrés. Wollongong partiellement nuageux, 26 degrés. Sydney partiellement nuageux et 28 degrés. Newcastle partiellement nuageux également et 27 degrés. Brisbane risque d'averse avec un maximum de 29 degrés. Cairns on signale des averses avec un maximum de 31 degrés, tandis qu'à Darwin, des averses éparses sont signalées avec un risque d'orage, un maximum de 33 degrés. 13h14min43s, nous allons marquer une courte pause avant de retrouver le magazine des sports signé Jean-Noël Ducasse.
On passe au journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Dakar et en moto Daniel Sanders, l'Australien tenant du titre a remporté hier la deuxième étape. L'Australien, nouveau leader du Dakar, s'est imposé devant son coéquipier Edgar Canet et les Honda de Ricky Brabec et Tosha Shareena. L'Américain Seth Quintero, au volant de sa Toyota, a remporté lui la deuxième étape côté auto, le Qatari Nasser Al-Attiyah. Vainqueur du Dakar à 5 reprises, a terminé 8e et il prend la tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Quintero. On passe au foot et on retourne sur les 8e de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Et hier, l'Égypte a battu le Bénin 3-1 et le Nigeria s'est imposé contre le Mozambique 3-0. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Le positif d'abord, une performance maîtrisée du début à la fin, une démonstration de force des Super Eagles face à une équipe du Mozambique figurante plus qu'actrice. Ademola Lookman dans tous les coups est à la conclusion d'une action d'école à la 20e minute. 5 minutes plus tard, Victor Osimhen fait le break. Osimhen, encore lui, corse l'addition après la pause avant le 4e but signé Accor Adams sur un service de Lookman. Lookman et Osimhen qu'on va retrouver aussi au cœur du bémol de la soirée, une prise de bec entre les deux stars de l'équipe suite à une action trop individuelle du premier. Osimhen, visiblement très agacé, va passer 3 minutes à marcher sur le terrain, complètement déconnecté, demandant à Eric Schell de le sortir. Il quittera le stade avant tous ses coéquipiers. Alors, simple bouderie passagère ou vrai malaise au sein d'une idée Super Eagles, difficile de le dire, tous se veulent pour l'instant rassurants sur la suite de la compétition.
Dimanche, les Lions indomptables se sont qualifiés pour les quarts de finale, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
Surprenant à plus d'un titre, ce Cameroun, d'abord attentiste, maladroit, avant de se libérer peu après la demi-heure de jeu. Junior Tchamade a bien suivi un ballon qui traîne dans la surface sud-africaine. Sa frappe ne laisse aucune chance à Ronwen Williams. Désormais devant au tableau d'affichage, les Camerounais s'enhardissent et reviennent de la pause avec l'envie de doubler la mise. C'est chose faite en à peine plus d'une minute. Christian Kofane place une tête croisée hors de portée du portier des Bafana Bafana. 2-0, les Lions indomptables resteront devant malgré des dernières minutes intenses, tendues, indécises, marquées par la réduction de l'écart de Magopa. Au coup de sifflet final, la joie camerounaise est semblable à celle d'une qualification pour une finale, à la hauteur du soulagement et de l'espoir né de cette nouvelle victoire. Les Lions indomptables auront encore quelques jours pour fêter avant de se pencher sérieusement sur la suite et le quart de finale face au Maroc. Un nouveau test pour le Cameroun, une nouvelle marche vers le rêve.
Et puis le Maroc s'est qualifié également pour les quarts de finale dimanche. Sofiane Amazian pour RFI.
Soulagé comme les supporters des Lions de l'Atlas au coup de sifflet final. Soulagé car le Maroc a souffert face à la Tanzanie, petit poussé de ses huitièmes de finale. Brahim Diaz, seul buteur du match, s'attendait à ce type de rencontre.
Chaque match dans cette CAN est difficile car nos adversaires sont recroquevillés, compacts défensivement. C'est compliqué de se créer des occasions, mais le plus important, c'est la qualification et de voir nos supporters heureux. On veut continuer de marquer l'histoire.
Marquer l'histoire en chassant les cauchemars, ceux des dernières CAN où le Maroc n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale.
Le passé, c'est passé. Il faut aller de l'avant. C'est une nouvelle génération aussi qui arrive maintenant. Donc c'est une nouvelle histoire à écrire.
Déjà là contre le Bénin en 2019 et face à l'Afrique du Sud il y a 2 ans, Romain Saïs, c'est mieux que quiconque que bien jouer n'est pas gage de succès.
Ça reste des matchs de Coupe d'Afrique. Hein. Des fois, il faut jouer peut-être un peu plus salement, si je puis dire. Et on a vu qu'aujourd'hui, par moments, on a été embêté là-dessus. Donc, il y a des choses où on ne peut pas passer à côté. T'as d'esprit, les duels. Parce que si on ne met pas ça en Afrique, malheureusement, on n'existe pas.
Une équipe minimaliste, mais qualifiée pour le spectacle. On repassera en quart de finale face au Cameroun.
Et samedi, le Mali s'est imposé contre la Tunisie au tir au but 3-2. Le Sénégal s'est imposé contre le Soudan 3-1. Et puis un mot sur les matchs de ce mardi avec Pauline Guillou pour RFI.
Avec l'Algérie qui affronte la République démocratique du Congo, un duel entre deux titans du continent. Les Algériens qui sont auteurs d'un début de compétition parfait avec 3 victoires en 3 matchs de poule, 7 buts marqués, 1 seul encaissé. Mais attention face à eux, des Congolais très en forme dans cette CAN qui ont notamment réussi à tenir le Sénégal en échec. Donc de belles promesses. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso clôturent les 8e de finale. Le gagnant affrontera donc l'Égypte. Une belle bagarre qui se déroulera à Marrakech.
On passe maintenant en Europe avec les championnats qui se déroulent, et d'abord en France, en Ligue 1, où le Paris Saint-Germain et le Paris FC se sont rencontrés pour le derby parisien, comme nous l'explique Victor Missistrano pour RFI.
Attendu depuis près d'un demi-siècle, Paris Saint-Germain, Paris Football Club, les deux clubs de la capitale qui s'affrontaient au Parc des Princes, un grand écart entre un champion d'Europe et un promu. Hiérarchie respectée, victoire 2-1 du PSG, grâce au retour en attaque des tauliers Désiré Doué et Ousmane Dembélé, buteurs tous les deux. Willem Jeubels avait égalisé sur pénalty, l'attaquant du Paris FC frustré après le match, mais fier de son équipe.
Pas beaucoup de regrets par rapport au résultat, mais voilà, on était quand même venu essayer de faire quelque chose de grand au Parc des Princes. La défaite, elle est là, mais je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, parce que voilà, c'est quand même le champion d'Europe. On a essayé de faire ce que le coach nous demandait, ce qui était de jouer. On a quand même un peu réussi, on a marqué. Je pense pas qu'il y a à rougir du résultat de ce soir. Le plus important, c'est que le visage qu'on a montré ce soir, il n'était pas faible, et on peut sortir la tête haute.
Au classement, le PFC dégringole à la 15e place, le PSG est deuxième à 1 point de Lens.
En Espagne, le Real de Madrid a écrasé le Betis Séville 5-1 sans Kylian Mbappé qui est blessé. En Angleterre, Manchester United se sépare de son entraîneur, comme nous l'explique Pauline Guillou pour RFI.
Et oui, l'année démarre bien mal pour Ruben Amorim, viré de Manchester United après un peu plus d'un an en poste. Lui qui était arrivé en héros et qui a pourtant réussi à sauver les meubles à Manchester United. Les Red Devils sont aujourd'hui 6e au classement, bien mieux classés que l'an dernier où ils avaient terminé 15e. Pour l'instant, c'est Darren Fletcher, ancien joueur du club et actuel entraîneur des moins de 18 ans du club, qui assure l'intérim.
En frisky, l'Australienne Indra Brown, qui a l'âge de 15 ans, poursuit son ascension fulgurante en remportant sa première médaille d'or en halfpipe de la Coupe du Monde. Cette victoire à Calgary au Canada fait d'elle la plus jeune Australienne à remporter une épreuve de Coupe du Monde. Elle couronne également une première saison exceptionnelle. Elle est la deuxième athlète de l'histoire de la Coupe du Monde de ski sur le podium lors de ses 3 premières compétitions. La jeune Melbournienne est actuellement en tête du classement général de la Coupe du Monde à mi-saison avec 240 points, 55 points d'avance sur la chinoise Zhang Keqing. Enfin, un mot de tennis pour vous dire que le Serbe Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi ATP d'Adélaïde afin de se mieux préparer en vue de l'Open d'Australie où il tentera de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS et on continue l'émission dans quelques instants.
Et oui, un morceau que vous venez d'écouter, c'est le morceau analysé par Magic System et Soul Coring. À présent, vous allez découvrir des façons simples et pertinentes de commencer à vous renseigner sur les cultures et les communautés des Premières Nations, peu importe où vous vivez et quel que soit votre niveau d'anglais ou votre origine. Si vous venez d'arriver en Australie, vous remarquerez peut-être de nombreuses références aux propriétaires traditionnels, aux traditional owners, au pays, au country ou aux Premières Nations. Beaucoup de nouveaux arrivants souhaitent comprendre ce que cela signifie et comment s'impliquer de manière respectueuse. Faire ses premiers pas peut être intimidant, mais cela fait partie de l'apprentissage des codes de ce pays et de votre propre intégration. Les peuples des Premières Nations d'Australie vivent sur cette terre et en prennent soin depuis plus de 60 000 ans. Comprendre et respecter ce lien à la terre peut vous aider à vous sentir mieux enraciné dans votre nouveau foyer. Dans cet épisode d'Australia Explained, vous découvrirez des moyens simples et concrets de commencer à découvrir les cultures et les communautés des Premières Nations, peu importe où vous vivez et quel que soit votre niveau d'anglais ou vos origines. S'installer dans un nouveau pays peut être déstabilisant. Beaucoup de migrants souhaitent entrer en contact avec les cultures autochtones, mais ne savent pas comment s'y prendre correctement. Certains craignent de commettre un impair, tandis que d'autres ne savent tout simplement pas par où commencer. Alors, à quoi ressemble concrètement un premier pas significatif? Nous avons demandé à Shannon Dodson, une femme Yawuru et directrice générale de la Healing Foundation, de nous guider. Elle explique que le voyage commence par la compréhension qu'il n'existe pas une culture autochtone, mais une multitude de cultures autochtones.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world, and understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country, and even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
Cette première étape peut se faire en ligne, à votre rythme. Apprendre à connaître la diversité des Premières Nations peut vous donner plus de confiance avant une rencontre réelle. Après cette phase d'apprentissage, l'étape suivante consiste à comprendre le pays ou country sur lequel vous vivez, la terre sur laquelle vous marchez, travaillez et élevez votre famille.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
Une simple recherche sur Internet avec les mots « traditional owners » suivi du nom de votre quartier vous donnera souvent des résultats fiables. Le site web de votre municipalité ou local council est également un excellent point de départ. En zone régionale, ce site répertorie souvent des festivals, des visites locales, des ateliers ou des événements familiaux. Pour une vision plus large, chaque État et territoire dispose d'organisations autochtones proposant des ressources spécifiques. Shannon Dodson ajoute que des organisations nationales peuvent également vous accompagner. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est un bon point de départ.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
Si vous préférez les activités de groupe, Shannon précise que c'est une excellente option. Partout en Australie, de nombreux événements communautaires accueillent des personnes de tous horizons.
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June. And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the stolen generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
Ces événements proposent souvent de la musique, de l'art, de la danse et de la cuisine, toutes des activités qui ne nécessitent pas une maîtrise parfaite de l'anglais et qui sont idéales pour les familles. Asefa Bekele de la communauté éthiopienne de Sydney a l'habitude de travailler avec les communautés autochtones. Il explique comment cet engagement peut renforcer votre propre sentiment d'appartenance.
It's very important. And I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales. And there must be some sense of belonging for every individual, every citizen, particularly those who came from overseas and the indigenous Australians who lived here for almost over 60,000 years. And it's better to share history, culture, and everything, and really develop the sense of belonging and togetherness.
Malgré cela, la peur de l'erreur persiste. Madame Dodson souligne que cette nervosité est partagée par beaucoup.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that fear should stop people from engaging. because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal, Torres Strait Islander or anyone.
Bâtir des relations sincères demande du temps et de la confiance. L'écoute est la compétence la plus précieuse, mais tout commence par un premier pas.
My advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
Que vous soyez en Australie depuis 6 mois ou 6 ans, aller vers l'Australie autochtone ne demande pas d'être parfait. Il s'agit d'être présent, curieux et respectueux. Pour de nombreux nouveaux arrivants, c'est aussi un moyen puissant de se sentir enfin chez soi. Cet épisode de Astral Explained a été réalisé en anglais par Zo Tomaidou et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French. C'était L'homme idéal, une chanson de Bertrand Burgala. Retrouvons à présent Jean-Noël Ducasse pour examiner comment une ligne d'assistance téléphonique destinée aux réfugiés ayant fui la guerre, la violence et les persécutions a bénéficié d'un renforcement de son financement suite à l'attentat terroriste de Bondaï. Puis nous irons au Paris-Dakar découvrir la friterie de la grande épopée avec Christophe Mallet.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La ligne d'assistance téléphonique aux réfugiés enregistre une forte hausse des appels à l'aide après l'attentat terroriste de Bondi Beach. Reportage de SBS News. Une ligne d'assistance téléphonique destinée aux réfugiés ayant fui la guerre, la violence et les persécutions a reçu un financement accru suite à l'attentat terroriste de Bondi Beach. Les responsables de ce service en Nouvelle-Galles du Sud indiquent que ce financement leur permettra d'étendre leur action à l'échelle nationale et d'accompagner les réfugiés confrontés aux traumatismes complexes et aux éléments déclencheurs des événements de Bondi. Ce reportage peut être choquant pour certains auditeurs.
So we've seen an increase in calls from Hebrew speakers, from the, actually around Australia, not just New South Wales based. We have actually also assisted people who have actually survived wars and it reminded them of their tragic trauma that they've been through and they've survived the wars overseas. So they feel the unsafety again, they feel the vulnerability in the community, whereas they were safe and they were feeling settled. The need is grave. In Australia at the moment.
Depuis 2022, ce service offre un soutien psychologique gratuit aux victimes de guerre dans leur langue maternelle avec la possibilité de recourir à un interprète. Fida Al-Haddad travaille comme opératrice sur une ligne d'écoute depuis plus de 2 ans. Son parcours a été long. Après avoir quitté le Liban, elle a obtenu une licence et un master en sciences sociales en Australie avant de suivre une formation continue en santé mentale pour accompagner les autres. Elle confie que son travail est difficile mais gratifiant.
I feel immensely privileged to be able to provide these services for our communities. Nothing other than privileged, honestly. What I really want is to empower our communities. That's where my heart is and that's where I give my best. I want to build our communities. I want to strengthen our communities. And that's where my passion is.
Fida Al-Haddad affirme que son propre parcours l'aide à établir une compréhension partagée et un sentiment de sécurité.
Having shared that experience as a migrant or as an asylum seeker, we came to Australia seeking safety. We came to Australia fleeing wars. Some of us are even banned from going back to our country. So we know that pain. We understand where it comes from. We don't want to label it. We just want to listen with empathy and without a judgment.
Le psychologue Jorge Arroche est le directeur général de STARTS, l'association à but non lucratif qui gère la ligne d'écoute téléphonique. Il explique que le projet, initialement prévu pour une durée de 6 mois et financé par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, visait spécifiquement à soutenir la communauté afghane de l'État. Jorge Arroche précise qu'au fil des années, la ligne d'écoute a évolué pour répondre aux besoins croissant de la communauté en apportant un soutien aux personnes fuyant les conflits en Ukraine, en Iran, au Sri Lanka, en Inde et au Soudan du Sud.
It's fantastic that you know governments realize that having you know a hotline that people can access in different languages and attuned to the particular impact that these events that happen overseas and now at home can have on people that have survived such, you know, horror before, you know, hopefully now we'll be in a position to cater, you know, for clients and people in this situation across the nation, but also have something standing so that we don't try to, you know, reinvent the wheel each time.
Le service a enregistré une forte augmentation des appels suite à la fusillade de Bondi Beach. Fida Al-Haddad affirme que la situation a clairement changé.
I've heard it from some of our Jewish callers and I've heard it from our Arabic speaking callers as well. It's a shared sentiment, the sense of that they're not safe, where they've just shared, they've used to go out in shared spaces, in shared public spaces, and they didn't used to worry about these things, but these things don't happen in Australia. So it's just attacked that sense of public safety.
Le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 40 millions de dollars pour soutenir les services de santé mentale. Suite au massacre de Bondi Beach, Jamila Paddy explique que ces fonds permettront aux services d'offrir un accès équitable à des soins spécialisés dans toute l'Australie, y compris dans les villes régionales.
You know, it's an absolute tragic event and all Australians are grieving with Jewish communities in Australia. But also that level of violence is a triggering event for many communities, obviously for communities from refugee backgrounds who have escaped war, conflict, persecution. It does become triggering. This phone line's been going for a while, but it's only been really based in New South Wales. So this resourcing will enable it to have a national response.
Madame Paddy est la coordinatrice nationale du réseau australien FAST, qui regroupe 8 organismes spécialisés dans la prise en charge des réfugiés victimes de torture et de traumatismes et représente les différents États et territoires. Elle explique que l'objectif actuel est de contribuer à rétablir les ressources qui permettent aux personnes de se sentir en sécurité, notamment en renforçant les liens avec la communauté.
People not only need to feel physically safe, they need to feel psychologically safe. So, you know, another element of safety is really that sense of belonging. Trauma impacts on daily living, so it's all the work in terms of helping people to really live their lives in Australia, and that can be a variety of things about re-establishing connection to community or getting a job or all of those, you know, day-to-day things that help people with their function.
Jorge Arroche affirme que les services de la ligne d'écoute téléphonique resteront indispensables, notamment grâce à sa couverture nationale, tant que le traumatisme et le deuil persisteront. Il ajoute que le rétablissement des liens communautaires fragilisés prendra du temps.
Let's bear in mind that acts of terror are things that are thought through and done with a purpose. The purpose is to, you know, destroy the fabric of society, you know, to create terror. You mentioned grieving, and I think grieving is something that will take time. It, you know, this is a very significant attack on a community, but on us as a nation, as a whole. You know, it attacks not only, you know, the Jewish community, but it also attacks, you know, the places that we see as safe. a lifestyle, the way that we perceive Australia.
Selon Jorge Arosh, le traumatisme chez les survivants de guerre se caractérise par un besoin de soutien continu et les symptômes peuvent se manifester ultérieurement après l'événement déclencheur initial. Il souligne l'importance particulière du soutien aux enfants.
But I think we face now a much more challenging prospect, which is that of ensuring that this horrific incident doesn't further undermine cohesion, doesn't lead to further polarization in our society. And that will require acknowledging that this is a need. One area that I think is fundamental in this is that we put more resources in working with young people because of, you know, the stage of development that they're going through, how volatile they are, you know, just as a stage of development. I think that many times these sort of situations can affect young people a lot more, and I think this would be a very timely investment in our future.
Ce reportage de Biwa Kwan pour SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
On est ici sur le Dakar avec Alain. Et Alain, il a quelque chose d'exceptionnel parce qu'il fait partie d'une équipe qui a une friterie. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, parce que c'est hallucinant se dire qu'il y a une friterie sur le Dakar. C'est la Ch'tite friterie, c'est le Nord. Ça sent bon la patate. Expliquez-nous un petit peu le concept.
Carrément, bon, c'est surtout Hervé au départ qui fabrique des baraques à frites et qui a eu cette idée de pouvoir faire une friterie de course et de participer au Dakar. Et là, aujourd'hui, on est à la quatrième participation et il faut savoir quand même qu'on a à chaque fois passé l'arrivée, hein, même si on a une auto un peu lourde, mais elle est costaud. Ben voilà.
Expliquez-nous un petit peu le concept, parce qu'il y a une friterie, ça vient du Nord. Vous fabriquez des friteries, des friteuses, je crois, des friteries, c'est ça, en fabrique des baraques à pain dans le Nord. Donc, bon, on a tous dans l'idée les ch'tis, chez Momo, etc. Montrez-nous.
Donc là, c'est un vrai tête de course, engagé en compétition, qui a déjà fait 3 Dakar, un pour la popote, un pour la course. Et en même temps, bon, on lui a greffé une baraque à frites dessus avec une vraie friteuse de compète, hein. Là, on voit sa frimière en plus. Ah ouais, là, ça. Là, dans 5 minutes, on mange des frites, là.
D'accord. Et en dessous, il y a l'huile à frites, hein. Faut pas refondre.
Ah ça, on peut mettre 10-20% d'huile dans le moteur hein, de ça.
L'idée, c'est vraiment de faire ça plusieurs fois sur le Dakar, je crois.
Ouais, voilà.
Tout à fait. On en fait ce soir, demain soir, à la journée de repos et avant au bivouac de la spéciale marathon, le 4e et le 5e jour.
Ça, ils vont vous aimer là-bas parce que vous êtes en autarcie complètement. Il y a pas de journaliste, il y a rien. Il y a vous et votre friteuse et le catering du Dakar.
Non, il n'y a pas le catering du Dakar. À la marathon, on va être seul.
Les sachets.
Donc, ouais, il y a deux, trois trucs à manger. Mais là, tout le monde nous attend là sur la marathon. Là, on va faire un paquet de frites. Hein.
Toute blague à part, vous le disiez, c'est votre 4e Dakar. C'est le Dakar classique. C'est comment à l'intérieur, justement, d'être de... Si vous l'avez fait, c'était en Amérique du Sud. Là, c'est la première fois en Arabie Saoudite.
Voilà, première fois en Arabie Saoudite avec la friterie. On était là en 2020, la première édition, avec un SSV. Mais c'est notre 4e avec la Ch'tite friterie. 12e pour Hervé, 13e pour moi en tout, de Dakar. Voilà.
J'ai une question. Ça rajoute combien de poids, une friteuse? Parce que forcément, c'est pas léger.
Ben là, on l'a pesé tout à l'heure, 2 tonnes 8. Hein.
2 tonnes 8 quand même. Hein. Donc 500 kilos à peu près en plus de friteuse.
Ah, à peu près, ouais. Hein. Ah oui, avec la structure, tout, oui. Hein.
Ouais. Et bon, là, je vois que ça cuit. On est prêt dans combien de temps, là? Quand est-ce que je peux goûter les frites?
Dans 5 minutes, c'est prêt, hein, la marche.
On y est?
Quand elle commence à flotter, tu vois? quand elle commence à flotter, sont el dente, tu vois.
Ah, soit là, soit el dente, bon, ça, là,
elle remonte à la surface. Et là, ça va bientôt être.
Il faut les cuire deux fois ou pas?
Ouais, c'est mieux.
C'est mieux?
Ouais.
En tout cas, merci, bonne chance. Ce sera un plaisir de dévorer et de déguster des frites à Yambou encore, mais dans 15 jours.
Voilà. Voilà. Et on espère. Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Tonton, les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture.
Regarde, Bill,
monte,
elle
monte,
s'en va.
Monte, Bill, elle monte. Hé, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va.
C'était Tonton du Bled, une chanson de Rimka à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 6 janvier. Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse ont plaidé non coupables devant un tribunal américain. L'auteur présumé de la fusillade de Bondi a été transféré à la prison de haute sécurité de Goulburn. Et en France, le gouvernement tente d'apaiser la grogne des agriculteurs à la veille de la signature de l'accord du Mercosur. Et voilà, notre émission touche bientôt à sa fin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Prochaine édition avec le programme en français sur SBS Audio, c'est ce jeudi à la même heure, donc entre 13 et 14 heures, heure de l'Australie orientale. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Bon après-midi, bon appétit si vous êtes toujours à table. Et à très bientôt sur SBS Audio. Je vous laisse en compagnie de Manu Chao dans Time Out of Time Man.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.